Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes Charline, Jérémy et Megan, élèves en première année au gymnase de Crissy. Nous avons conçu ce podcast à l'occasion des 750 ans de la cathédrale de Lausanne. Tout au long de votre écoute, nous allons aborder plusieurs points au sujet de l'histoire de ce monument. Tout d'abord, Jérémy nous parlera de la liturgie de Lausanne, puis Charline nous racontera la vie sociale, religieuse et spirituelle de Lausanne entre le 14e et le 16e siècle. Et pour terminer, je vous présenterai Aymon de Montfalcon et ses exploits.
Pour mieux comprendre ce qui se passait à l'époque, imaginez, vous êtes un prêtre à la cathédrale de Lausanne en 1536. La ville tombe aux mains des Bernois. Vous êtes effrayé, le chaos règne autour de vous. Dans la précipitation, vous cachez précieusement certains documents liturgiques, puis vous prenez la fuite. Les autres objets et trésors appartenant à la liturgie de la cathédrale disparaissent ou sont malheureusement détruits.
Mais qu'est-ce que la liturgie ?
Alors la liturgie, c'est l'ensemble des rites, prières, gestes et célébrations qui sont utilisés dans une religion, dans le cas de Lausanne, la religion protestante. C'est en quelque sorte la manière officielle dont une communauté croyante organise son culte. Pour vous donner des exemples, il y a la parole, qui est composée de prières, de lectures, de chants, mais aussi la gestuelle qui consiste à se lever, s'asseoir, faire un signe de croix, utiliser de l'eau bénite, etc. Malheureusement, comme nous l'a dit précédemment Charline, la liturgie de la cathédrale de Lausanne a été détruite par la Réforme. Pour en savoir plus sur cette mystérieuse liturgie, nous avons recruté des informations auprès de Karine Crouza.
Parce que dans la liturgie, ça répond en partie à votre question, dans la liturgie protestante, la musique, elle est chantée par toute l'assemblée. C'est des psaumes, beaucoup plus simples, en français. Alors que dans la liturgie catholique, on avait aussi de l'orgue, des chants très complexes que des spécialistes chantaient. Soit des enfants, soit le chœur de la cathédrale. Voilà, on avait des spécialistes, mais le public chantait pas. Donc ça, c'est un gros changement liturgique, si vous voulez. Le fait aussi qu'on a passé du latin au français. Donc c'est toute une autre formule. Et un autre grand changement dans le monde protestant, c'est qu'on a toujours des sermons. Dans chaque culte, on a un moment où le pasteur prêche, dit ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, etc. Alors que dans le monde catholique, ces sermons, ils apparaissent surtout au moment du carême, donc avant Pâques et de Noël. Mais ce n'est pas tout chaque fois.
Mais alors, y a-t-il encore des restes de cette liturgie ?
Oui, il y en a quelques-uns qui ont été imprimés déjà de ces manuels de liturgie. Et ça, on en a gardé quelques exemplaires, donc version imprimée de l'époque. Il y a des livres de messe aussi, ils n'ont pas tous été détruits. On en trouve encore quelques-uns à la bibliothèque de l'Académie de Lausanne. Il y a des livres anciens qui ont été conservés. Ce qui a vraiment été détruit, ça ne fait pas partie de la liturgie. Par contre, c'est les statues des saintes, des saints, la Vierge Marie. On avait une statue qui faisait l'objet d'un pèlerinage. Il y avait vraiment beaucoup de pèlerins qui venaient à Lausanne pour la voir. Alors celle-là, elle a disparu, on ne sait pas où elle a fini.
Comme vous pouvez le constater, la réforme a ravagé la cathédrale et fait disparaître en même temps une partie de la cathédrale, son mode d'emploi religieux, pour ainsi dire.
Avant la réforme, la cathédrale de Lausanne était un lieu où la communauté se rassemblait pour vivre sa foi au quotidien. On y célébrait les grands moments de la vie, et la spiritualité s'exprimait de manière collective, à travers les rites, les processions et les célébrations. Mais la cathédrale n'était pas seulement un espace religieux, c'était aussi un véritable centre de vie sociale. Autour d'elle, la ville était animée. Elle faisait véritablement partie du tissu social. Elle réunissait les habitants et offrait un cadre commun aux pratiques religieuses de la population. Avec la conquête bernoise au XVIe siècle et l'introduction du protestantisme, son rôle change profondément. Le culte catholique disparaît, une partie des objets liturgiques est retirée ou détruite, et les rassemblements festifs disparaissent presque complètement. La vie autour de la cathédrale devient plus calme, plus sobre. La spiritualité se transforme elle aussi, elle devient plus intérieure. Les grandes fêtes et les expressions collectives de la foi se font plus discrètes. Pourtant, la cathédrale reste un lieu clé où se transmettent les convictions et les valeurs du nouveau culte.
Nous avons eu la chance de pouvoir rencontrer et surtout interviewer Marie Bourron, une spécialiste dans le domaine de la cathédrale. Elle nous parlera de la symbolique de ce monument, mais aussi de sa taille démesurément grande.
Cette cathédrale, elle joue ce rôle de symbole religieux, mais aussi politique, qui surplombe vraiment la ville de Lausanne. À partir de la réforme, donc à partir de 1536, l'évêque est chassé de la ville et elle deviendra l'église protestante.
La cathédrale, qu'est-ce qu'elle révélait du pouvoir de l'église à cette époque-là?
Bon, déjà, la cathédrale, elle est beaucoup trop grande par rapport à la taille de la ville. Si on pense que, à peu près au moment de sa création, la ville de Lausanne, c'était 4500, 5000 habitants et habitantes, voilà, la cathédrale, elle est complètement disproportionnée. Donc ça montre effectivement cette richesse de l'église à ce moment-là, en tout cas à Lausanne. C'est très spécifique, mais vous regardez, vous voyez vraiment la cathédrale qui se découpe dans le ciel de manière incroyable. On voit que ça de la ville. Donc vraiment, on voit que c'est ce centre à la fois symbolique. Enfin, elle surplombe tout, elle surplombe la ville. Et il y avait vraiment la ville médiévale, c'est la colline de la cité où il y a la cathédrale et juste en dessous jusqu'à la Palue et Pépinet. Donc c'est vraiment très petit, si vous voyez. Et donc vraiment, la cathédrale, elle est vraiment au-dessus de cette ville. Quoi. Donc c'est vraiment c'est visuel aussi, vraiment, ce pouvoir, ce symbole.
Aimon de Montfalco est né en 1443 à Flaxieux, en France. Il arriva en Suisse, plus précisément à Lausanne, en 1491. Dès son arrivée, il accéda au siège épiscopal lausannois et devenu par la même occasion prince de la ville. Aimon resta évêque jusqu'à la fin de ses jours, en 1517. Certes, il était un homme d'église, mais aussi un diplomate, mécène et encore poète. Malgré l'abondance d'articles le concernant, Aimon est toujours resté pudique sur ses avis spirituels et ses préférences dévotionnelles. Ce que nous savons, c'est qu'il ne fut pas qu'un simple évêque. Il laissa son empreinte à Lausanne et surtout à sa cathédrale grâce à ses exploits. Il fut responsable de la cathédrale Notre-Dame de Lausanne pendant 26 ans, à la fois sur le plan religieux, politique et artistique. Aimon apporta des modifications à l'église. Durant quelques années, il ferma le passage public traversant la Grande Travée pour construire, en 1515, un portail à l'ouest de la cathédrale qu'il finança et que l'on appellera le portail Montfalcon. Aimon cherchait aussi à laisser une trace durable de son passage, mais aussi à s'écrire dans l'histoire de Lausanne. Après les nombreux exploits de l'évêque, plusieurs édifices ont opté pour une architecture gothique comme celle de la cathédrale de Lausanne.
Cet homme qui aimait la célébrité voulait rester gravé dans la mémoire de Lausanne. Mais comment faire? Il eut alors une brillante idée. Faire construire sa propre chapelle privée. Et clairement, il ne faisait pas les choses à moitié. Sa chapelle, construite en 1504 dans la cathédrale, elle est riche, fermée, décorée partout avec ses armoiries, impossible de l'oublier. Mais ce n'est pas tout. Aimon a aussi prévu des messes régulières, parfois tous les mois, parfois même tous les jours, pour qu'on prie pour lui longtemps après sa mort. Résultat, même mort, il reste très présent. En résumé, grâce à l'art, à la religion et à un très bon sens de la mise en scène, Aimon de Montfalcon a réussi son pari. Plus de 500 ans plus tard, on parle encore de lui.
Aujourd'hui encore, la cathédrale reste un repère essentiel pour Lausanne. Elle témoigne de siècles de pratiques, de rencontres et de transformations. Au-delà de son architecture, elle porte la mémoire d'une ville qui a longtemps vécu autour d'elle, que ce soit lors de moments de fête, de recueillement ou de simples passages quotidiens. Même si la manière de vivre la spiritualité a évolué, la cathédrale demeure un lieu central chargé de sens et d'histoire.
Pour conclure, on voit que la cathédrale de Lausanne n'était pas seulement un lieu de prière, mais aussi un espace de rites, de symboles et de mémoire. Même si la réforme a fait disparaître une grande partie de la liturgie d'origine, celle-ci a profondément marqué le fonctionnement et l'organisation de la cathédrale. Avec sa chapelle privée, Aimon de Montfalcon représente parfaitement cette époque. Grâce à la liturgie, à l'architecture et aux célébrations, il transforme la religion en un moyen de laisser une trace durable. Finalement, son plan a plutôt bien marché, puisqu'on en parle encore de lui aujourd'hui.
Aujourd'hui, la cathédrale est un lieu très vivant et visité, grâce notamment au portail qu'Aimon de Montfalcon a financé, connu pour être un chef-d'œuvre de sculpture gothique et étant unique en Europe. Mais c'est aussi grâce à la volonté de Montfalcon de mettre en valeur la cathédrale qu'aujourd'hui, elle est un élément majeur de Lausanne. Elle est aussi devenue le symbole religieux et historique de la ville. Même si Montfalcon est désormais décédé, ses améliorations, elles, seront toujours présentes et admirées par tous. et lui restera pour toujours un homme qui a embelli la ville de Lausanne.